Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre. Ce soir, faut-il ralentir la mode pour sauver le monde ? Jusqu'à 50% de réduction sur une sélection de bottines, voilà une offre qui ne se refuse pas. Elle est arrivée la semaine dernière dans ma boîte mail, envoyée par un site de vente de chaussures en ligne. Ni une ni deux, je vais sur le site, sélectionne une paire, l'enregistre dans mon panier pour finalement réaliser que je l'ai déjà acheté il y a à peine 6 mois. Ainsi va la mode aujourd'hui. Pas le temps de profiter de vos achats. Les sollicitations à base de soldes et de ventes privées sont quasi permanentes. Cela se voit et cela se mesure. Selon l'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, une personne achète en moyenne 60% de vêtements en plus qu'il y a 15 ans et les conserve moitié moins longtemps. Ce phénomène a un nom, la fast fashion, la mode rapide. Il a aussi un coût pour l'environnement. La surproduction de vêtements participe à l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre. C'est aussi une industrie qui consomme beaucoup d'eau, qui pollue les sols, qui crée de nombreux déchets. Alors faut-il ralentir la mode pour sauver le monde ? C'est la question du soir que je vais poser à trois invités. Majdouline Sbaï, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes sociologue spécialisée en environnement, membre du collectif Éthique sur l'étiquette et vous avez publié cette année aux éditions Rue de l'Échiquier. Une mode éthique est-elle possible ? On évoquera aussi les initiatives que vous avez prises dans ce domaine. Pour discuter avec vous, Marie Fortunato Allier, bonsoir.
Maria
Fortunato Allier, pardonnez-moi,
bonsoir.
Consultante, experte en éco-innovation, vous accompagnez des acteurs du secteur du textile et de l'habillement dans le développement responsable de leurs produits. Voilà, ça c'est l'explication qu'on peut trouver sur le site du French Bureau dont vous êtes une des fondatrices associées.
Oui, exactement.
Et puis troisième invité, Alice Pfeiffer, bonsoir.
Bonsoir.
Journaliste, spécialiste des questions de mode, vous collaborez pour de nombreux titres, Le Monde, Les Arocs, Antidote, je ne veux pas tous les citer. Vous avez été une des animatrices des troisièmes rencontres anti-fashion à Marseille en juin dernier. Alors je voudrais qu'on commence par faire peut-être le constat et revenir notamment sur une phrase alors que j'ai trouvée dans de nombreux articles et également dans votre livre « Majdouline Sbaï ». Selon laquelle la mode est la deuxième industrie la plus polluante au monde derrière l'extraction pétrolière. Est-ce qu'on en est bien sûr, ça, tout d'abord ?
Alors, aujourd'hui, compiler toutes les données, puisque la mode a des impacts sur le dérèglement climatique, sur la consommation d'eau, sur l'émission de polluants dans les milieux, est compliqué. Toutes ces données, rentrer dans une même matrice, c'est compliqué. Ce qu'on sait, c'est que la mode, l'industrie de la mode, comme d'autres industries manufacturières, contribue à la pollution et à la dégradation de l'état de notre climat. Et on le sait d'autant plus parce que on est capable quand même d'évaluer un certain nombre d'impacts, comme les émissions de gaz à effet de serre. La mode émet plus de gaz à effet de serre que le transport aérien et le transport maritime. Elle consomme, elle est la troisième consommatrice des eaux d'irrigation dans le monde. Il y a beaucoup de chiffres qui viennent attester des nombreux impacts. Et donc, l'industrie de la mode aujourd'hui constitue un des grands contributeurs de la dégradation de notre planète.
Même si ce n'est pas forcément le deuxième, parce que alors, j'ai lu dans un autre article, dans une étude du Pulse of the Fashion Industry Report, que l'agriculture et le tourisme pollueraient davantage. Ce qui est important à dire, de toute manière, Maria Fortunato Allier, effectivement, comme le disait Majdouline Sbaï, c'est que la mode est une industrie qui pollue et qui pollue beaucoup.
Oui, énormément, parce que c'est des chaînes de valeur très complexes et international. Les principaux impacts, notamment, c'est la consommation et la pollution d'eau, puisque tous les procédés, par exemple, de teinture, d'ennoblissement, exigent énormément d'eau. Donc, l'eau est un énorme problème. Et effectivement, les émissions de gaz à effet de serre, la production de déchets, puisque à chaque étape, par exemple, de la confection, on a des chutes de production. Ensuite, on consomme énormément de vêtements qui finissent dans les poubelles. En France, par exemple, on met sur le marché 600 000 tonnes de vêtements, ce qui correspond à peu près à 2,5 milliards de pièces. Et il y a seulement 210 000 tonnes qui sont collectées et triées. Ça représente à peu près sur 9,2 kilos par personne. Il n'y a que 3,2 kilos qui sont collectés et triés. Donc la marge est importante. Et pour inciter les personnes à recycler, enfin à mettre les vêtements dans des containers.
Alors, c'est toujours bien d'avoir des exemples un peu concrets pour se figurer de ce que représente effectivement cette pollution. Alice Pfeiffer, je vois que, par exemple que vous avez un jean et j'ai pu lire ici et là que, par exemple, un jean et ses composants parcourent en moyenne 65 000 km. Je crois même d'ailleurs que c'est dans le livre de Majdoulin Zbaï et qu'il faut entre 7 000 et 11 000 litres d'eau nécessaire pour la fabrication d'un tel vêtement. C'est vrai que quand on donne ces exemples-là, c'est encore plus parlant. Est-ce que c'est quelque chose dans le domaine justement de la mode qui est le vôtre, puisque je rappelle que vous êtes journaliste, c'est quelque chose dont ce milieu a conscience, en tout cas de cette énorme, on va pas parler de gaspillage, mais en tout cas utilisation de ressources naturelles.
Oui, je pense qu'elle en a absolument conscience et ce n'est que récemment qu'elle a commencé à se dire que c'était peut-être un problème. Je pense que jusqu'à récemment, au contraire, cette débauche faisait partie justement du système de la mode. C'est qu'on avait besoin de trop dépenser, une espèce de d'opulence dégoulinante. C'est-à-dire, il y avait c'est des histoires qui ont fait la mythologie de la mode. On raconte que le Vogue américain, dans les années 60, avait fait venir des milliers de roses d'un désert égyptien pour être shooté au Colorado. Tout le monde trouvait ça merveilleux et ça faisait partie de la promesse, justement, de la promesse capitaliste. Alors aujourd'hui, comment est-ce qu'on ralentit sans perdre justement la part fantasmatique de la mode? Parce que c'est comment dire, je veux dire, c'est... Non, mais je m'exprime pas bien, mais ce que je veux dire...
Non, c'est très clair pour l'instant. Hein.
En tout cas, que l'idée d'un luxe éthique ou l'idée d'une mode ralentie, c'est pas un oxymore géant? Parce que c'est pas précisément pour ça qu'on consomme de la mode.
C'est vrai qu'a priori, voilà, ça semble deux termes assez contradictoires. Mais vous évoquiez cet exemple des roses dans les années, vous disiez 60, c'est
oui,
ça?
Oui, c'était quelque chose comme ça.
Il y a un exemple beaucoup plus récent, printemps dernier, le défilé Chanel où il y a des arbres, alors notamment des arbres centenaires qui ont été coupés à ras en plus. Alors semble-t-il, ça les empêche de repousser et qui ont été coupés donc pour faire le défilé Chanel. Et sur le site de France Nature Environnement, ils signalent notamment cette incongruité en disant pourquoi ne pas avoir fait le défilé plutôt dans la forêt plutôt que de couper des arbres pour les amener à Paris. C'est vrai que ça paraît assez absurde.
Encore une fois, si Chanel le fait, c'est que ça permet de rentrer dans leur couille et que ça, c'est un investissement qui va se remplir, parce que sans ce défilé-là, ils perdent la moitié de la clientèle. C'est-à-dire que sans un défilé qui soit Instagram-friendly, comme on dit, avec quelque chose d'un peu surréaliste, ça fonctionne plus du tout.
Majdoulin Zbaï.
Oui, en fait, effectivement, la mode est associée à la futilité, la légèreté, le plaisir. Là, on parle en plus de haute couture qui travaille dans des démarches artistiques très, très, très poussées. Je pense aussi que, moi, ce que je dis aussi, c'est que c'est la réalité aussi de la façon dont on fabrique la plupart des vêtements dans le monde. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui, la mode, ça n'est pas que ça, c'est aussi une industrie qui fabrique. Et comme d'autres industries, elle a vécu sa révolution industrielle, elle a pris le virage de l'économie linéaire, c'est-à-dire un modèle économique qui fonde sa réussite sur le fait de produire toujours plus, vendre toujours plus, consommer toujours plus et donc jeter toujours plus. Et que ce virage-là, il s'est fait évidemment au moment de la révolution industrielle et s'est accéléré pendant les 30 glorieuses avec un modèle de consommation. Et enfin, il a pris encore une nouvelle accélération depuis les années 2000, puisque entre 2000 et 2014, le nombre de vêtements mis sur le marché dans le monde a doublé. Et avec une accélération des collections, aujourd'hui, Zara, je crois qu'ils annoncent 12 000 vêtements différents chaque année mis en rayon, 12 000 modèles. Et donc, c'est ce processus-là qui, effectivement, lorsqu'on est confronté à ça, c'est difficile de penser d'un côté cette notion de plaisir et d'un côté cette réalité avec des processus aussi de fabrication qui contribuent à rendre notre planète un peu plus invivable chaque jour.
Alice Pfeiffer.
Et bien, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que le luxe a repris les pratiques de la fast fashion. C'est-à-dire que les gens... L'avantage qu'avait le luxe avant...
Alors la fast fashion, c'est l'idée
c'est
de,
Zara,
de pousser
H&M.
À renouveler régulièrement des collections, hein, c'est
oui,
ça?
Oui, et en fait, eux, leur seul avantage qu'ils avaient, c'était de pouvoir voir les collections qui, haute couture, qui elles mettaient 6 mois à être produites, et les avoir en boutique une semaine après. Et donc j'avais rencontré un créateur qui m'a dit, c'est merveilleux, si je veux voir ma collection, j'ai qu'à aller chez H&M le lendemain du défilé. Parce qu'ils ont des productions réduites, et ils font ça extrêmement vite, mais aujourd'hui, on a... des collections de demi-saison, on a des collections d'id resort, pre-fall, Christmas. Donc les gens veulent, en fin de compte...
Ce qui en français veut dire
pre-fall, non, c'est pré-automne, parce que ce serait pour la cliente qui serait revenue de sa croisière et qui voudrait quelque chose avant les collections d'automne.
Ah oui, donc la collection automne-hiver et printemps-été, ça c'est beaucoup plus...
Ah, ça c'est pour
plus...
les losers. D'accord. Non, entre les deux, pour montrer combien on voyage et combien on a le temps d'acheter, on achète comme si c'était pas cher. Et donc c'est toujours une tension entre la consommation des classes plus populaires, entre guillemets, et plus nobles, qui se citent mutuellement. Un veut de la fourrure comme les classes nobles. Les classes nobles aussi rapides, une production aussi rapide que quelque chose qu'on achète comme un t-shirt.
Mais ce qui paraît d'ailleurs d'autant plus stupide, Maria Fortunato Allier, c'est que cette accélération de la mode, ce renouvellement quasi compulsif, ça se traduit par ailleurs, non pas par une augmentation du budget qu'on va consacrer à ces vêtements, mais c'est plutôt quelque chose en diminution. C'est-à-dire qu'on produit beaucoup plus, mais finalement aussi beaucoup moins cher. Alors, c'est sans doute pas le cas dans le cas de la haute couture, mais plus largement, on va dire, dans l'industrie du prêt-à-porter. Ça, c'est une tendance aussi qui est assez forte aujourd'hui.
Oui, on continue. La fast fashion, c'est déjà avoir des vêtements qui font plaisir à moindre coût, d'où son succès.
Et à moindre coût et à moindre durabilité aussi, peut-être.
Non, c'est-à-dire
ce sont des vêtements qui sont fabriqués pour ne pas durer, c'est-à-dire pour s'user très rapidement.
Pour s'user, il y a l'absolu sens programmé. Ensuite, la mode, c'est la consommation. C'est-à-dire, la fast fashion est associée, par exemple, à. Il n'y a pas de temps de réflexion, par exemple, pour le consommateur qui va dire aujourd'hui, j'ai passé une mauvaise journée, donc je vais rentrer dans une grande enseigne et je vais m'acheter un blouson. Qui va me... Je ne sais même pas si ça va faire plaisir. Il y a une différence entre mode et style. Le style, c'est... Chacun doit cultiver, effectivement, que ce soit un vêtement intemporel et un style personnel.
Mais vous dites, on peut rentrer dans une boutique, mais il n'y a même plus besoin de faire ça. J'évoquais alors, c'est une anecdote certes, mais en ouverture de l'émission, le fait de recevoir des mails dans lesquels on vous promet comme ça régulièrement des promotions. C'est très facile aujourd'hui de s'acheter des vêtements, Maria Fortunato Allier.
Oui, c'est très facile de s'acheter un vêtement. Il suffit juste de cliquer d'aller sur un site internet, de recevoir justement ces vêtements le lendemain. Ça, c'est très facile. Après, effectivement, on est confronté à une offre de surproduction. Et la surproduction, et aussi les industriels vont répondre à la surconsommation. Le consommateur en veut toujours plus, donc je vais surproduire.
C'est un peu le serpent qui se mord la queue, ou qui de la poule ou de l'œuf est responsable finalement de ce genre de dérive. Je ne sais pas si vous accepteriez d'ailleurs ces termes de dérive, Jolyn Sbahy.
Mais oui, parce que en fait, je l'ai dit, le modèle économique de l'industrie de la mode, mais comme d'autres industries de biens manufacturiers, de biens de consommation, est fondé sur le fait de produire toujours plus, vendre toujours plus, consommer toujours plus et jeter toujours plus. Donc son réussite est fondée sur le fait qu'on achète tout le temps. Et toujours plus vite, toujours dans des volumes plus importants. Vous l'avez dit en introduction, on consomme 60% de plus de vêtements, on les garde depuis 15 ans, deux fois moins longtemps, et donc on renouvelle régulièrement. En plus, cette transformation, ce volume de fabrication et cette rapidité, c'est aussi allé de pair avec une réorganisation de la façon dont on fabrique les produits de mode. Aujourd'hui, on a les sièges sociaux, le marketing, la communication, qui est la conception des collections qui est dans des pays du Nord. Et on a la fabrication qui se fait pour l'essentiel, pour 70% des vêtements achetés dans l'Hexagone, en Asie du Sud-Est. Et donc, on ne maîtrise plus aussi les conditions de fabrication. D'ailleurs, on y consacre un budget et des marges très faibles. C'est-à-dire que dans le budget d'un vêtement, c'est 4% pour l'usine de fabrication et 0,6% pour le travailleur. Ça augmente un peu, mais globalement, les derniers chiffres, c'est ce qu'il disait.
Si on les garde deux fois moins longtemps, c'est d'abord parce qu'on est incité à les renouveler, ou c'est parce que on n'a pas le choix, parce que au bout de quelques mois, ce sont souvent des vêtements qui ne sont plus tout à fait comme on les avait achetés, disons.
Il y a une perte de repère totale. C'est-à-dire que 50% des vêtements sont achetés en solde. Vous l'avez dit aussi, le budget. Dans la part de budget qu'on consacre aux vêtements est moins importante. Donc cette perte de repère, c'est que finalement un vêtement, ça coûte le prix d'un sandwich, un t-shirt. Et donc on peut acheter un t-shirt comme on achète un bien alimentaire, comme on achète quelque chose qui est pas cher. Donc cette perte de repère entraîne un rapport aux vêtements et à l'achat de vêtements et de produits de mode qui est complètement dissocié de la réalité de tout ce qu'il y a dans un vêtement, des savoir-faire, des matières premières, etc.
Alice Pfeiffer, est-ce qu'il y a notamment une responsabilité de la presse magazine, de la presse mode dans ce phénomène. Et c'est le moment de vous fâcher du coup avec les titres pour lesquels vous écrivez.
C'est ça, tous les magazines. En fait, c'est la même chose. C'est comment est-ce qu'on sort d'archétypes qui sont attendus par la presse féminine, qui sont attendus par la mode. Comment est-ce qu'on écrit des nouveaux récits qui symboliseraient la même chose sans passer par une consommation complètement excessive, sans passer par du port de fourrure? Comment, par exemple, Vivienne Westwood et Stella McCartney ont souvent fait des sacs en ce qu'on appelle simili-cuir. L'appellation simili-cuir allait lui garantir de perdre la moitié de sa clientèle. Parce que la cliente ne veut pas un ersatz d'eux. Donc comment est-ce qu'on peut reprendre ces mêmes codes et faire quelque chose avec un nouveau, sans les mêmes codes de classe et de genre? Par exemple, dans le sportswear, l'arrivée de l'acrylique et l'arrivée de toutes les matières techniques ont permis de faire les premiers vêtements qui étaient unisexes. La basket est unisexe parce que, contrairement à tous les textiles de l'histoire, il n'y avait pas d'histoire aristocrate ou d'histoire de classe rattachée à ça. Maintenant, comment est-ce qu'on peut faire des matières qui rentreraient et qui auraient un message un peu plus égalitaire? Comment est-ce qu'on peut réinclure la 3D dedans sans passer par l'appellation chic pas chic, les paramètres complètement absurdes qui font la mode, cool pas cool, ringard beauf? Comment est-ce qu'on peut sortir de paramètres qui sont que liés autour de l'apparence vers une prise de conscience et une participation dans une chaîne plus large? Ne pas juste s'arrêter au selfie et montrer au look.
Mais est-ce que ça peut vouloir dire, Alice Pfeiffer, si on poursuit ce raisonnement, que donc pour la haute couture en tout cas, hein, pour la création, s'il y a besoin de rendre désirables, disons, des produits qui seront fabriqués différemment, vous évoquez le simili-cuir, alors je ne sais pas quel peut être justement le terme qui peut être utilisé pour que, quand on va acheter du simili-cuir chez Stella McCartney, on va quand même considérer que c'est un produit de luxe, mais est-ce que ça ne revient pas à laisser à cette industrie du luxe le bénéfice de tout ce qui pourrait être un autre mode de consommation de la mode et de laisser au prêt-à-porter finalement tout ce...
Oui, c'est le problème. C'est quand on fait commencer par une pratique complètement élitiste. Je pense qu'il faudrait... Et bon, il y a un terme qui est absolument problématique, mais qui me fait rire quand même, qui s'appelle fashtivism, et c'est la volonté de rendre l'activisme fashion. Je fais des guillemets avec mes doigts. Et donc, c'est l'espèce de branchitude du recyclage. Andrea Cruz, par exemple, la créatrice en fait partie, elle a créé une chose qui s'appelle l'upcycling, elle reprenait des gestes punk et des codes très punk pour finalement faire des vêtements qui avaient été recyclés. Mais comment est-ce qu'on peut passer d'un consommateur qui agit plutôt qu'il n'apparaît? Comment est-ce qu'on peut encourager, et ça c'est un problème, c'est que l'homme dans la culture latine est beaucoup moins apte à recoudre ses boutons, comment est-ce qu'on peut réapprendre à l'homme à réparer ses affaires, parce qu'en fait c'est des vraies choses comme ça, c'est plutôt que jeter, il faut apprendre à conserver, à donner quand on rachète, et donc qu'est-ce qu'on peut défaire pour faire que cultiver ne s'exprime pas par l'abondance, pour faire que homme ne s'exprime pas par la possibilité à recoudre qu'un bouton. Enfin, c'est des choses comme ça, je pense.
Maria Fortunato, oui. Dans le travail que vous faites, vous, comme consultante en éco-innovation, auprès d'entreprises de la mode et de l'habillement, ça consiste en quoi, alors, justement, vous, votre travail? C'est-à-dire, l'idée, c'est d'inciter ces entreprises à changer de modèle ou à changer la façon de vendre les modèles qu'elles produisent? Ce qui
non,
peut
ça, ça
ne consiste... pas être tout à fait la même chose.
Oui, ça consiste à concevoir, à les aider, à les accompagner dans la conception de leurs produits, à mettre en place une stratégie de développement, de éco-conception. Donc, intégrer l'environnement à chaque étape du cycle de vie d'un produit. Donc, il va de la matière première à réfléchir à chaque étape et définir la meilleure stratégie de éco-design. Ça peut être par exemple réfléchir sur les matières les plus durables. Par exemple, dernièrement, j'ai travaillé avec une créatrice qui voulait lancer une collection de t-shirts en coton recyclé. Elle me dit, je veux zéro partout, en fait, pas de transport fait en France. Et du coup, c'était très compliqué à trouver. Je pensais que ça allait être facile parce que on se trouve confronté à des problématiques de chaîne de valeur, donc d'approvisionnement. Il y a des innovations qui existent, mais qui sont pas tout à fait abouties. Il faut savoir que, par exemple, au niveau du coton recyclé, souvent, on trouve en France, il y a les filatures du parc qui sont déjà très en avance, mais qui font des fils pour les pulls recyclés. Et là, moi, j'ai cherché un fil fin pour du recyclage. Donc, les entreprises, en fait, c'est aussi les mettre en collaboration ensemble pour avancer et apporter des grands changements dans leur manière de produire.
France Culture, du grain à moudre.
Hervé Gardette.
On l'appelait le Rana Plaza. Un immeuble de 9 étages dans la banlieue de Dakar. Il n'en reste qu'un tas de pierres, de métal et de tissus. Les secouristes continuent de découvrir des cadavres. 7 ce matin-là.
Ma boutique était là-bas, au niveau de la pelleteuse jaune, vous voyez sur la gauche. Je suis arrivé juste après l'effondrement de l'immeuble. J'étais très choqué. À 15 minutes près, j'étais moi aussi là-dessous.
Le Rana Plaza s'est effondré le 26 avril dernier. Le bâtiment abritait une galerie commerçante et 4 entreprises de textiles où des ouvriers fabriquaient des vêtements, ensuite exportés vers l'Europe et les États-Unis. Le bilan est effroyable. Près de 1200 personnes sont mortes, ensevelies sous les débris.
Voilà, reportage de signé BFM TV, c'était en mai 2013, c'est-à-dire quelques jours après l'effondrement du Rana Plaza. Majdouline Zbaï, est-ce que cet événement a contribué à faire prendre conscience au milieu de la mode, et aussi peut-être d'ailleurs aux consommateurs que nous sommes, qu'il y avait des changements de comportement à adopter, prise de conscience pas seulement en ce qui concerne les conditions sociales dans lesquelles sont produits ces vêtements, mais aussi sur les impacts en matière d'environnement.
Oui, moi je pense que ça a été un électrochoc, je le dis pour moi, mais je pense pour beaucoup. Moi je participe beaucoup à des événements autour de la mode responsable et j'entends énormément de créateurs, y compris d'ailleurs de marques, qui s'expriment en disant à quel point il y a eu une mise en lumière à un instant T de dans quelles conditions aujourd'hui étaient fabriqués les vêtements. Et je l'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une dissociation. Les usines, la fabrication est aujourd'hui dans des pays lointains, éloignés des pays où on consomme les vêtements. Cet éloignement géographique, du coup, il est aussi psychologique, c'est-à-dire qu'on on préfère ignorer parfois comment c'est fait, y compris d'ailleurs de la part des entreprises. Et des fois, on l'ignore simplement parce que le système consiste à avoir une collection à produire et à aller chercher l'entreprise, le fabricant dans ces pays, comme le Bangladesh, qui est le moins cher et le plus rapide. Et on peut en changer d'ailleurs très très vite. C'est pas un problème. Et ce même fabricant va sous-traiter, puis le sous-traitant va sous-traiter pour remplir et répondre à la commande qui est faite.
C'est-à-dire que si on regarde l'étiquette d'un vêtement, on n'a pas les informations suffisantes pour savoir quel a été le parcours de ce vêtement.
Et donc,
le made in, voilà. Alors, je sais pas, made in Bangladesh, made in Taïwan, il ne veut pas dire grand chose.
Et en plus, c'est même pas une obligation. Donc, de toute façon, c'est pas une obligation réglementaire. Mais force est de constater que sur la plupart des vêtements, il apparaît quand même. Et donc, c'est pour ça que je dis l'étape numéro un, c'est déjà de se réapproprier la manière dont sont fabriqués les vêtements qui habillent effectivement la plupart des gens et de savoir d'où vient la matière première, comment est transformé le vêtement, par quel process, etc. Et cette question de comment est fait mon vêtement, déjà, est la première où et comment est déjà la première question fondamentale. Et c'est ce que nous avait, je dirais, poussé à faire finalement. D'ailleurs, ça a été ce que le mouvement Fashion Revolution qui est né cet événement pose cette question-là. C'est la question qu'il pose tout le temps.
Ça veut dire que quand on achète des vêtements, il faut quasiment être journaliste d'investigation, Alice Pfeiffer, pour savoir d'où est le lien.
Ah bah, la plupart des marques, quand ils disent « made in Italy », c'est pas « made in Italy », c'est « assemblé en Italie ». C'était le cas de Prada qui s'est avéré faire la plupart des pièces en Chine et qui a perdu énormément de valeur aux yeux des clients. Mais effectivement, les mots sont très, très troubles et pareil pour le mot green. Moi, je sais pas exactement. J'ai l'impression qu'il y a plein d'écoles qui se font la guerre. Il y a comme une démarche américaine de holier than thou, de qui est le plus pieux de tous. Les spécistes vont nous dire que c'est la vie animale est à préserver à tout prix. Mais quand même rentrer dans des choses où on fait venir des avocats d'Israël, par exemple. Donc, c'est avec une empreinte carbone terrible. Donc, c'est pas parce que c'est vert ou que c'est des légumes que c'est forcément le mieux. Après, il y a des bottes véganes, mais qui sont faites en cuir et qui, en cuir en plastique, en fait. Et donc, qui vont finir au fond des océans aussi. Donc, c'est des solutions qui sont pas complètes. Veja, par exemple, c'est du cuir. C'est du cuir animal.
Alors, Veja, c'est une marque de basket.
C'est une marque
c'est
de basket. Et non, et donc, il y a une des écoles, c'est manger moins, manger localement, saisonnier. Et d'autres, c'est préservons toutes les vies à tout prix, même si ça veut dire terrible pour...
Il y aurait peut-être une solution, alors qui est peut-être un peu radicale, mais ce serait d'arrêter d'acheter des vêtements, de se contenter de ce qu'on a aujourd'hui, ce qui permettrait finalement de régler ces problèmes. C'est-à-dire, est-ce que je vais être plutôt du côté des véganes? Est-ce que je vais être plutôt du côté de la réduction de l'impact de la pollution des sols, par exemple?
De vegan, pas cher du tout, c'est aussi une mauvaise nouvelle, en fait. C'est pas parce que pas de mains humaines ont été ou animales ont été impliquées que c'est bien. Et il y a rien de plus dangereux qu'un label bio distribué un peu n'importe comment. La plupart d'H&M se dit bio maintenant. Je sais pas à quel point, je sais pas exactement ce que ça veut dire. Et c'est pas une charte qui est globale ou qui est universelle.
Il y a un problème aujourd'hui avec les labels, justement, Maria Fortunato Allier. Et ce serait quoi la définition d'un vêtement qui serait un bon vêtement du point de vue de son impact environnemental?
Un vêtement qui serait le... Alors déjà, il y a les labels, effectivement, ils sont pas... De temps en temps, il y a des loupés. Mais quand même, ça, ils représentent quand même une garantie. Voilà, donc déjà, il faut partir de cette base-là, notamment par rapport aux produits chimiques. En France, par exemple, il y a aussi une différence entre les pays européens où la réglementation est vraiment très, très stricte et d'autres pays où la réglementation est un peu plus, on va dire, aléatoire ou moins stricte. Un vêtement qui serait le top du top. Alors, je vais citer, il y a eu un reportage sur Arte, justement, dans le nouveau luxe, si je peux me permettre, c'était utiliser des techniques primitives, c'est-à-dire c'était chez soi. Là, c'était un atelier où les femmes ou la créatrice faisaient leur tissu à la main. Et ensuite, pour fabriquer une veste, elle me mettait 150 heures pour faire cette veste-là, mais elle vendait quand même 3 200 €. Et donc, ça, c'est un peu le nouveau luxe, si je peux me permettre. On vend un objet, mais avec une valeur temps. On prend le temps, on ralentit. Après, du côté de la fast fashion, de la consommation de masse, je dirais que dans le futur, peut-être louer ses vêtements. Ensuite, faire appel à des matières intelligentes, par exemple, le vêtement qui changerait de couleur. Donc, ça éviterait toutes les versions, un pull en produit en 10 couleurs. L'innovation, la technologie peut permettre justement qu'un vêtement soit plus responsable. En fait, il faudrait qu'à chaque étape, on analyse et qu'on soit zéro ou positif partout. Mais ça, toujours pareil, c'est vraiment une question de compromis. Quelle est ma stratégie? Quel est mon compromis? Quel est mon marché? Parce qu'il faut savoir qu'une entreprise, elle va prendre ses décisions, elle va s'engager dans le développement durable parce qu'elle a un intérêt économique, intérêt à garder sa clientèle. Il faut qu'elle soit pérenne. Donc, elle va faire ses choix en fonction de sa stratégie.
Majdeline Sbaï, la location de vêtements, c'est par exemple quelque chose qui aujourd'hui se développe?
Alors, oui, parce que la base, quand même, il faut le rappeler, c'est que si on veut ralentir la mode pour qu'elle contribue à sauver notre planète, c'est d'abord consommer moins, mais mieux. Donc, de toute façon, avec des volumes aussi importants qu'aujourd'hui, on ne pourra pas réussir avec une croissance en plus prévue de la fabrication de vêtements, ça ne pourra pas marcher. Donc, toutes les solutions qui visent à utiliser du seconde main, à réemployer les vêtements, ou à les louer, ou à allonger la durée de vie des vêtements. Et d'ailleurs, ça peut donner lieu à des services payants, c'est-à-dire que c'est aussi une nouvelle économie de la mode autour de l'upcycling, on l'a dit, c'est-à-dire le fait de customiser ses propres vêtements, de les transformer, de faire appel à des designers.
Et aussi bien que ça prenne une valeur, que ça prenne une nouvelle valeur, que ça devienne valeur, par ce processus qui est un truc presque transcendantal, où ça devient un objet luxueux par le travail manuel qui lui a été fourni.
Voilà, et comme
si ça devient un objet luxueux, ça devient un objet difficilement accessible.
Non, pas forcément, parce que en fait, un magasin, par exemple, aujourd'hui, c'est un lieu où on va acheter des vêtements. Demain, un magasin, ça sera peut-être un lieu de vie où on va pouvoir adapter son vêtement, le faire retoucher, peut-être participer à des ateliers de do-it-yourself, c'est-à-dire de faire soi-même, le fait de se réapproprier. Il y a la Fabrique Idéale, il y a une boutique qui vient d'ouvrir, Canal Saint-Martin, qui propose sur 400 mètres carrés justement des ateliers, qui refait des merceries. Donc, toutes ces solutions-là, qui sont différentes de ce qu'on peut imaginer aujourd'hui, c'est les solutions aussi d'avenir, parce que l'innovation, elle peut venir, bien sûr, on peut utiliser du lin, du chanvre, de l'ortie, des matières premières qui ont un meilleur, et voire même qui peuvent contribuer à améliorer l'état de la planète.
Il y a même du marc de café,
il y a plein de choses, des process, on peut aller plus loin. Et donc, tout ça, il faut investir, c'est-à-dire que dans ces innovations. Et moi, ce que je défends aussi, c'est l'idée de réinvestir vraiment, finalement, dans la question de l'éco-conception des produits, c'est-à-dire les fabriquer avec des meilleurs matériaux, dans des meilleures conditions, et y compris peut-être ailleurs. Mais l'important, c'est vraiment de réinvestir, parce qu'aujourd'hui, on est encore, finalement, d'une certaine manière, dans des procédés très anciens. Vu qu'on a consacré peu d'argent ces 30 dernières années à la question de la fabrication, forcément, les entreprises doivent elles aussi réinvestir dedans. Et puis, il faut aussi ouvrir les oreilles, les yeux sur des attentes émergentes de la part des consommateurs, des envies pour pouvoir leur proposer. Et ce n'est pas de la science-fiction. Il y a des grandes enseignes qui ouvrent des Fab Labs, donc c'est des fabriques laboratoires, c'est-à-dire des ateliers de do-it-yourself, enfin où on fait
fait les choses soi-même, etc. Donc, moi, je crois que c'est vraiment ces voies-là qui peuvent permettre de renouveler l'offre, en tout cas en matière de mode.
Mais est-ce que ça ne s'adresse pas, je vous pose la question à toutes les trois, à une partie bien particulière de la population? Il y a quelques jours de cela, je crois que c'était une quinzaine de jours à peu près, on s'intéressait à la question du bien manger et de la façon dont la grande distribution aujourd'hui essayait de se mettre sur ce créneau. Et un de nos invités, qui est d'ailleurs le concepteur du label Nutri-Score, c'est ce code couleur qui permet de savoir quelle est la qualité nutritive des aliments, qui expliquait que le vrai problème aujourd'hui, c'était quand même celui des inégalités sociales. Est-ce que avoir ce genre de démarche, c'est pas d'abord réservé à la fois aux gens, en tout cas, qui ont soit les moyens financiers de le faire, soit qui ont le temps aussi de consacrer une partie de leur journée à ces démarches-là, Liz Pfeiffer?
Ouais, effectivement, c'est le problème, parce que surtout quand on est journaliste, on peut pas prendre en compte... ne pas prendre en compte la classe sociale de la lectrice, c'est-à-dire que ou on lui promeut quelque chose qui n'est que réservé aux bobos, donc on l'exclut de facto, ou on lui promeut quelque chose qui n'a pas encore été développé pour être accessible à toutes les classes populaires et, ou classes moyennes. Par exemple, il y a plein de solutions type vendre le patron d'une robe pour la faire produire chez un couturier local ou chez un artisan local, c'est quelque chose qui est complètement possible. Mais des amis qui vont dans divers quartiers où il y a des petites mains, pour faire des choses qu'ils appellent comme demi-couture, petite couture. Et c'est, vu que de toute façon, on n'achète que l'apparence et que la production, le créateur ne touche même plus à la pièce et que c'est fabriqué en masse, pourquoi ne pas aller le faire soi-même avec des tissus locaux? Et donc, H&M pourrait nous vendre le patron d'un manteau à moindre coût et nous
Il y avait un magazine qui existe peut-être toujours d'ailleurs, mais qui s'appelait, moi je me souviens, Modes et Travaux.
Oui, mais en fait, voilà. C'est renouer avec toutes ces pratiques-là.
Ça, oui, mais avec vrai. Des patrons à l'intérieur.
Oui, mais exactement. Mais en fait, il faudrait revenir à ça. Tu parlais de mercerie aussi. C'est reprendre un tout petit peu goût à toutes les pratiques d'entretien et de fabrication du vêtement plutôt qu'avoir un produit fini sur les bras, quoi.
Maria Fortunato Allier.
Oui, moi je vais compléter en fait ce qui a été dit. Effectivement, l'une des solutions, c'est le recyclage, l'upcycling, réparer, louer, mais aussi...
La fripe aussi.
Mm-hmm.
Quand vous allez tenir ce discours à des entreprises de la mode et de l'habillement, ils vont vous dire, mais attendez, mais avec tout ça, moi, je ne veux plus rien gagner.
Bah non si, parce qu'ils s'y mettent aussi.
Oui, ils s'y mettent aussi.
Ils créent de leur propre plateforme communautaire à destination de leurs clients. Il y a plusieurs exemples pour que leurs propres clients revendent les vêtements de leur marque, mais sur une plateforme dédiée.
Y compris les grandes marques de prêt-à-porter.
Les grandes enseignes.
Bon, et après, il y a un autre problème, je suis désolée.
Alors, ça, c'est Liz Pfeiffer. Et ensuite, on réentendra Maria Fortunato.
On entend tous les bienfaits d'une nourriture green. J'ai appris récemment que l'açaï, le kia, le quinoa sont en rupture de stock absolue et les paysans qui en mangeaient depuis des centenaires ne peuvent plus le manger parce que tous les bobos veulent tout d'un coup manger green, manger mieux. Donc, manger mieux pour qui? Et comment est-ce qu'on mesure, en fait? Je ne saurais même pas dire ce qui rend un vêtement vraiment éthique ou pas. Parce que je ne sais pas quelle solution est la bonne. Est-ce que c'est parce que, à partir du moment où c'est naturel, on peut aussi être tout aussi exploitatif.
En fait, je voudrais compléter. Donc, ce qui a été dit, en fait, penser à cycle de vie, c'est-à-dire de la matière première jusqu'à fin de vie, et le créateur a une énorme responsabilité quand il crée son produit. C'est-à-dire, quelle sera ma fin de vie? On sait maintenant qu'il y a énormément, on n'arrive plus à recycler les vêtements tellement il y a de volume qui part dans les pays en voie de développement. Donc, l'idée aussi, ce serait de travailler sur la prévention. Un déchet, c'est celui qui n'a pas été produit. Voilà, c'est ça que je voulais rajouter en complément. Il y a aussi des marques comme par exemple 1083 qui arrivent très très bien à proposer des jeans à 89 €, qui ont du style, parce que la mode, c'est surtout se faire plaisir. Donc une personne qui veut s'acheter un jean, en l'occurrence responsable, tissé en France, vous allez chez 1083 par exemple, qui est un très bon exemple et moins cher qu'une autre marque de jean en fait.
Voilà, une marque qui s'appelle comme ça, parce que 1083, c'est le nombre de kilomètres maximum qui est entre deux villes de la France métropolitaine, hein, si je vous ai bien lu, Majoline Zbaï. 30% des déchets textiles sont collectés et valorisés aujourd'hui, ça veut dire que 70% ne le sont pas. Mais alors, si j'écoute ce que dit Maria Fortunato Allier, c'est que si on recyclait 100% des vêtements qui sont aujourd'hui en circulation, on serait incapable de le faire parce qu'il y en a trop, de toute manière.
Oui, et ça veut dire que forcément, ça se substituera à l'offre existante. C'est-à-dire qu'au lieu d'acheter du neuf, on va plus davantage se tourner vers des vêtements de seconde main, et c'est pas quelque chose de négatif. On peut, il y a un vivier justement de, et puis on peut aussi rajouter de la valeur, c'est ce qu'on disait, c'est-à-dire les transformer, les améliorer. Alors il y a aussi des techniques qui consistent à refaire de la fibre recyclée. Aujourd'hui ça représente moins de 1% de ce qu'il y a sur le marché, les matières qui sont à base de fibres recyclées. Et donc ça veut dire que tout cela peut constituer finalement ce qu'on considère aujourd'hui comme un déchet, peut constituer une matière première pour refaire du vêtement demain. Et c'est le sujet d'ailleurs qu'on aborde au Fashion Green Day, le forum de la mode circulaire que j'organise avec Nordcréa, une association dans le territoire où est née aussi la filière textile française, c'est-à-dire à Roubaix. Et donc à cette occasion, on essaye de faire le point sur toutes ces solutions, l'éco-conception, le recyclage, les nouvelles relations avec les clients, les nouveaux services qu'on peut créer. Tout ça est en gestation, mais il faut ralentir la mode et aller plus vite sur ces solutions-là qu'on essaie de construire.
Vous avez aussi d'ailleurs développé, Majeline Sbaï, un dispositif qui s'appelle Après la chute, qui consiste en quoi ?
Alors pour l'instant, qui consiste à accompagner et à promouvoir ces solutions. Et puis là, je travaille par exemple sur un projet expérimental de nouvelles boutiques dont j'ai parlé, avec ces nouveaux services, avec Oxfam France, qui est un organisme collecteur de textiles de seconde main.
Alice Pfeiffer ?
Mais alors, comment est-ce qu'on peut faire ce que tu décrivais exactement, tout en sortant des normes de ce qui constitue un vêtement nouveau, propre? Par exemple, le t-shirt va être recyclé, on veut un t-shirt qui est parfaitement blanc. Alors, c'est un non-sens absolu parce que ça peut pas l'être, et donc ça utilise du bleach et de l'acide et énormément de produits qui sont tout aussi polluants pour redonner une apparence neuve au textile vintage. On dit qu'on est une génération qui est en dissonance cognitive, on est une génération de véganes qui boivent du Red Bull, et j'ai l'impression qu'on est encore, il y a un consommateur qui veut les
Moi,
deux, en fait, qui
Red
veut quelque
Bull,
chose mais... qui soit aussi flambant neuf, mais avec une bonne conscience au passage.
Il y a une loi qui doit être discutée courant 2019, normalement en tout cas c'est à l'agenda, qui vise à interdire aux marques de jeter ou de brûler les invendus, qui devrait s'inspirer justement de la loi sur le gaspillage alimentaire. Ça, j'imagine, Maria Fortunato Allier, par rapport à ce que vous nous avez dit tout à l'heure, que c'est plutôt une bonne initiative pour vous.
Oui, parce que les entreprises, pour qu'elles bougent, en fait, il y a aussi la réglementation. Donc, ça peut les inciter. Ensuite, c'est vrai que sur les réseaux sociaux, dès qu'une marque commence à brûler, à déchirer des vêtements, tout de suite, elle risque, en fait, il y a un risque énorme de perte de clientèle.
Il y a la marque Burberry, par exemple, qui a eu ce genre de mésaventure, disons, et qui a dû effectivement changer d'attitude dernièrement.
Effectivement, là, toutes les marques ne peuvent plus se cacher ou faire n'importe quoi, parce que automatiquement il y a les consommateurs, les réseaux sociaux qui relaient à l'infini l'information.
Ça, c'est sans doute peut-être finalement le levier le plus important, c'est-à-dire la crainte que vont avoir les marques d'avoir une mauvaise image et qui va les inciter à changer, non, Alice?
Est-ce que c'est pas juste du greenwashing? Parce que c'est aussi un argument de vente qui est absolument imparable, mais à quel point est-ce que c'est réaliste? Je veux dire, Burberry ou toutes ces marques qui se félicitent de faire un tout petit peu moins de fourrure, est-ce que c'est un vrai engagement? Est-ce qu'ils vont s'engager quelque part où ils peuvent pas communiquer dessus? Ou est-ce que c'est absolument juste une partie de l'image actuelle?
Moi, je pense que chaque petit pas mène loin.
Ouais.
Personnellement. Donc du coup, faut toujours commencer effectivement par un endroit et l'amélioration continue. Mais c'est vrai que avec tous les réseaux sociaux, les journalistes, les consommateurs qui sont de plus en plus conscients, n'importe quelle marque ne peut plus se permettre de dire n'importe quoi et de faire n'importe quoi. On est dans le story, au lieu du storytelling, du story proving. On doit prouver qu'on fait pas n'importe quoi. Voilà.
Que d'anglicisme ce soir. Je sens que je vais recevoir du courrier. En tout cas, merci. On voit bien en tout cas que politique des petits pas versus politique de réglementation, ce sont des questions qui se posent régulièrement dès qu'on aborde les questions environnementales. Merci beaucoup en tout cas à toutes les trois d'avoir participé à cette discussion. Alice Pfeiffer, Maria Fortunato Allier et Majdouline Sbaï. Je rappelle le titre de votre livre, Une mode éthique est-elle possible? C'est publié aux éditions Rue de l'Échiquier. Merci à toute l'équipe du Grain, Virginie Leduo, Antoine Tricot, Fanny Richet, Antoine Dulster et Guillaume Laguigné. Antoine Tricot, le bien nommé ce soir. Émission réalisée par Alexandre Fougeron, avec à la prise de son Anthony Thomasson. Il se tient la
tête
d'une...
Je suis consterné avec Gardette à votre niveau de blague.
Je ne l'avais pas préparé, mais ça m'est venu d'un seul coup. Comme ça, je me suis dit, je ne peux pas en faire profiter nos auditeurs.
Ça n'arrange pas votre cas. ça n'excuse rien.
Vous voulez connaître le sujet de demain ?
Non, parce que d'abord, je voudrais que vous me demandiez de quoi on va parler ce soir, non ? Dans la dispute, ça vous intéresse plus la dispute ?
De quoi on va parler ce soir dans la dispute ? Ça vous intéresse plus la dispute ?
De One Woman Show, quasi essentiellement, ça change des théâtres habituels. La question du grain, Hervé ?
Violence des jeunes, quelle prévention des rixes ? Ce sera notre sujet demain.
À 18h20 demain. Merci beaucoup Hervé Gardet, il est 19h. Vous écoutez France Culture, les titres de l'actualité avec Clarence Rodriguez.